Bonjour à tous, c'est Denis Brognard. Vous écoutez Vie d'aventure, un podcast où je m'entretiens avec des hommes et des femmes aux destins extraordinaires. Des aventuriers, scientifiques, photographes, navigateurs, plongeurs ou encore alpinistes. Ils ont en commun une soif d'exploration. Je vais à leur rencontre, ils se confient sur leurs exploits, leurs expériences, en traduisant par des mots leurs émotions. Une photographie sonore avec des personnages hors normes qui forcent le respect par leur courage et la dimension de leur engagement. Ces héros des temps modernes vont vous transporter dans leur monde, vous permettre de vous évader et de réfléchir avec eux à l'évolution de notre planète. Prenez le temps de les écouter, ces baroudeurs, ces voyageurs. Voici tout de suite un nouvel invité dans Vie d'aventure. Yvon Bourgnon est un aventurier autant qu'un sportif de haut niveau, un marin tout-terrain tombé dans l'eau de mer encore gamin. C'est un boulimique de voile, il l'aime sous toutes ses formes, sur des géants des mers, sur les plus grandes courses transocéaniques, mais aussi sur des petites embarcations de loisirs où il pousse le matériel et sa propre résistance à son paroxysme autour du monde. Yvon Bourgnon, c'est un amoureux de la vie qu'il défie en permanence. Ascète en mer, épicurien à terre, un idéaliste aussi, qui rêve d'un monde meilleur et surtout moins pollué. Voilà pourquoi il s'est lancé dans un défi fou, construire un bateau, le Manta, capable de récupérer les déchets plastiques déversés dans l'océan. Yvon Bourgnon est mon invité aujourd'hui dans Vie d'aventure. Bonjour Yvon.
Bonjour.
Ravi que tu sois avec nous dans Vie d'aventure. Alors, on va commencer par le commencement et ta découverte de la voile, parce qu'au départ, rien ne te prédestinait à cette activité. Tu vivais en Suisse, à La Chaux-de-Fonds, tes parents étaient boulangers, donc à l'opposé de la mer.
J'avais des parents qui connaissaient que les montagnes, qui faisaient du patin à glace et qui connaissaient que leur boulangerie au fin fond de la Suisse à 1000 mètres d'altitude, à La Chaux-de-Fonds. Mais la lecture des livres de Moitessier, de Jules Verne, les ont incités un jour à prendre la décision de tout plaquer, de quitter leur boulangerie et de larguer les amarres alors que ils n'avaient absolument aucune notion de ce que pouvait être la voile, la mer et les océans.
Qu'est-ce qui les a véritablement poussés, tes parents, à prendre la direction de Saint-Brévin, au bord de l'Atlantique, de construire ce bateau pour partir autour du monde avec leurs deux garçons?
Ben, c'est justement le fait d'avoir deux enfants et de se dire « oh là là, on va offrir quelque chose d'autre à nos enfants ». Voilà, c'est pas la vie rêvée de travailler 7 jours sur 7 et de voir ses enfants dans un schéma classique. Au contraire, ils avaient vraiment envie d'offrir d'autres leçons de vie, d'autres ouvertures d'esprit. Et c'est comme ça que, ils essaient un premier tour du monde avec mon frère en 1970. Et là, ma mère tombe enceinte de moi au milieu de l'Atlantique. Donc j'ai la chance de faire déjà deux traversées de l'Atlantique, aller-retour dans le ventre de ma maman. Et évidemment, mon destin était un peu après tout tracé. Mais c'est vrai que c'était sacrément osé à l'époque, parce que mon père part faire un stage au Glénan de 3 semaines, revient en Suisse et réussit à convaincre ma mère que maintenant il sait faire de la voile, alors qu'il n'en savait rien du tout. Et puis voilà, c'est l'aventure à l'état pur, c'est on largue des amarres, on apprendra en cours de route et on embarque nos enfants dans l'histoire.
Et alors donc vous partez pour ce véritable tour du monde, tu as 8 ans, Laurent ton frère est de 5 ans ton aîné. Tu te souviens de cette période-là, de cette aventure extraordinaire, aventure en termes de voile, mais aventure familiale aussi?
Je me rendais pas compte en fait, hein. Quand tu vis ça entre 8 et 12 ans, pour toi c'est le déroulement normal de la vie. Mais en fait, c'était juste exceptionnel d'avoir notre maison comme ça qui passait de pays en pays, d'île en île, et de découvrir tout l'essentiel de la vie, quoi. C'est-à-dire découvrir les animaux, découvrir la nature, apprendre à naviguer au sextant, faire les cours par correspondance avec ses parents le matin, apprendre à vivre de peu, et apprendre ce que c'est que l'anglais, ce que c'est que les valeurs humaines. Et c'est vrai que moi, je me rendais pas compte, mais quelque part, à ce moment-là, pendant ces 3 années et demie de voyage, nos parents nous ont offert le plus beau cadeau, le plus beau tremplin de la vie qu'on pouvait imaginer, quoi.
Et ton père dans tout ça, est-ce qu'il a progressé en termes de voile? Est-ce que c'est devenu un bon skipper sur ce tour du monde?
Oui, effectivement, mon papa qui a pris la voile a vite enchaîné, a vite fait plein de traversées atlantiques et s'est pris au jeu. C'est devenu sa passion à part entière. Il est même devenu concepteur de pilotes automatiques. Il s'est pris à fond dans cette passion.
Toi, t'es gamin, t'as 8 ans, ton frère a un peu plus de 10 ans. Est-ce qu'à ce moment-là, pour vous, le virus, il vient instantanément ?
On déroule notre vie comme si c'était normal. C'est-à-dire pour moi, aller nager, monter sur un bateau, régler les voiles, prendre le sextant et faire un point avec les étoiles, tout ça était devenu juste la normalité. Après, finalement, au fil des années derrière, je me suis dit, waouh, oh là là, comment t'as fait pour emmagasiner autant de choses, autant de données, autant de valeurs sur la vie? Et voilà, quand tu vas à l'école, aux marquises, en planche à voile, et que t'apprends le marquisien, que t'apprends le langage des signes là-bas, que tu vis un truc d'exception, c'est juste incroyable, quoi.
Yvan, au départ, c'est une aventure, évidemment. Est-ce que, avec Laurent, ton frère, vous pensez rapidement à la compétition à la voile?
Alors, quand on revient de ce tour du monde, moi j'ai 12 ans, lui plutôt 16. Lui, c'est clair qu'il va vite finir ses études, qu'il va écourter et il va vite partir sur la compétition. C'est son plan de carrière et il y va à fond. Moi, c'est un peu différent. Je suis encore à l'école, au collège, au lycée et j'ai plus soif d'aventure. Donc, je prends mon bicat et puis je vais traverser continent Corse. Je vais faire des aventures comme ça, côtières avec mes petits au bicat 16. Et donc, j'ai plus soif d'aventure, et même parfois, pas seulement sur la voile, sur du rafting, de la course à pied, de l'aventure. Mais c'est clair qu'à ce moment-là, quand on rentre de ce tour du monde, on sait tous les deux, jamais on finira notre vie dans un bureau, c'est clair et net.
Alors, t'es pas franchement, Yvan, porté vers les études, et rapidement quand même, eh bien, tu prends la direction de la compétition, et notamment, tu deviens l'équipier de ton frère. Ça aussi, c'est une aventure unique dans la vie, de pouvoir partager des compétitions à la voile transocéanique avec son frère et notamment de gagner la Transat Jacques Vabre, la grande Transat en 1997 sur Primagaz. Est-ce que cette aventure familiale avec ton frangin, ça t'a construit aussi ?
Bon, c'est une évidence. C'est clair que j'ai eu une chance inouïe à ce moment-là. Quand je sors de l'école à 20 ans, j'ai mon frère qui est déjà propulsé très très jeune. Hein. Il était très précoce, très talentueux. Et j'ai cette chance d'avoir ce grand frère qui est déjà dans le grand monde de la voile, qui est déjà en train de gagner les plus grandes courses prestigieuses. Et il me donne cette opportunité de rentrer en son équipe, d'apprendre ce que c'est qu'une Formule 1 des mers. Finalement, quand on était jeune, on avait 5 ans d'écart. On sait très bien, deux enfants qui ont des écarts d'âge comme ça, c'est pas forcément beaucoup de complicité. Et au contraire, nous, entre 20 et 30 ans, bah, on se retrouve ensemble à la Trinité-sur-Mer. Et là, on vit finalement autour de ce trimaran blanc qui est finalement notre quotidien. On ne pense qu'à lui, on ne pense qu'à faire du sport le matin, qu'à préparer ce bateau. Et il me donne une opportunité incroyable. Alors Laurent était quelqu'un de très dur, de très exigeant, de très méthodique. Mais voilà, j'ai cette chance d'avoir quelque part un des meilleurs skippers du moment à mes côtés, et c'est mon frère. Et il va être encore plus dur et plus exigeant avec moi qu'avec ses préparateurs. Donc c'était pas toujours facile, hein, parce que Laurent était quelqu'un avec un caractère très forcé. Mais quelque part, dans ces années-là, je vais apprendre comme jamais, quoi. C'est la meilleure école de la compétition, de la dureté, du sport que j'ai pu avoir. Et cette victoire dans la Transat Jacques Vabre avec Laurent, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de gagner une Transat en double prestigieuse avec son frère? Ça a été à la portée de peu de gens aujourd'hui dans le sport. Et voilà, ça restera gravé toute ma vie, forcément.
Tu parles de Laurent au passé, on y reviendra tout à l'heure. Laurent qui a disparu après une plongée en 2015 en Polynésie. Mais je voudrais revenir sur cette période-là. Comment réagissent tes parents? Eux qui vous ont mis le pied à l'étrier, eux qui ont changé de vie pour vous offrir ce contact avec la mer.
Qui nous laissait, voilà, nous développer nos sens, développer notre activité. Ils se sont dit, nos enfants, ils ont envie de faire des choses, on les laisse faire. Et voilà, et tout ça, évidemment, en nous accompagnant, parce que mon père était le plus grand bricoleur de tous les temps. Il a construit sa maison, il a construit son bateau. Et puis, il m'a transmis tout ça. C'est-à-dire que moi, déjà à 14 ans, je savais déjà souder, je savais déjà construire une maison. Et donc, ces notions de bricolage, forcément, quand on va dans ce métier, la voile, ça m'a servi énormément. On fait plein de trucs, mais finalement, on apprend à être nous-mêmes, à être indépendants et à trouver notre identité, finalement, quoi.
Alors, tu as un parcours formidable avec des places d'honneur, avec des performances pendant
plus d'une décennie, mais je voudrais qu'on revienne sur des moments qui t'ont forcément construit et qui nous ont marqués. On est en 2002, la route du Rhum, cette transatlantique si célèbre. Tu es à bord de Rexonamen et là tu chavires. Tu restes 5 jours avec ton bateau à l'envers, sans eau, sans rien à manger, dans des conditions d'une précarité absolue. Raconte-nous ces moments-là avant l'arrivée des secours qui viennent te sauver.
C'est vrai que cette route du Rhum où 15 bateaux sont au tapis sur 18, avec une tempête exceptionnelle de 150 km/h en 2002, c'est une étape importante dans ma vie parce qu'en fait, je me retrouve pour la première fois dans des conditions de survie extrêmes. C'est vrai, 5 jours, c'est peu, mais 5 jours en plein hiver, sans eau, sans nourriture, dans l'eau, avec le fait que j'avais plus de balises de détresse, donc on ne pouvait plus me positionner, donc il y avait une angoisse et forcément une pression énorme. Pour moi, ça a été aussi la découverte que j'étais capable d'affronter les éléments, d'être bien sur mon bateau, même en situation extrême. Et puis voilà, j'avais ce bateau, il avait une identité, c'est mon frère qui l'avait construit. Si je le quittais, si je montais sur un cargo, je savais qu'il y avait très très peu de chances de le retrouver. Donc c'était juste inimaginable de penser que je ne resterais pas sur ce bateau pour pouvoir en fait le localiser, le ramener à bon port après. Et voilà, donc du coup, ça a été un vrai combat, puisque je suis arrivé à bout de force au bout de ces 5 jours, et mon équipe a réussi à me retrouver au milieu de l'océan, à l'envers, ce qui est quasiment une mission impossible dans la tempête, avec des coques blanches dans les écumes. Tout ça m'a donné encore plus envie derrière de me dire, c'est ton élément, voilà, même si un jour tu te retrouves dans une situation critique, tu sauras la gérer, t'adapter. Et puis ça me plaisait en fait, quoi. Ça me plaisait. Je me suis rendu compte très vite que en fait, le côté aventure de la compétition, c'est ce qui m'intéressait le plus.
Quand on te retrouve, tu es en pleine hypothermie. Est-ce que tu as eu peur pour toi à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit quand les heures défilaient et que tu étais en attente de ces fameux secours de ton équipe?
En situation de survie, comme tout aventurier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis, j'ai pas le droit, j'ai pas le choix, il faut que je m'organise à bord, voilà. Donc, par exemple, j'arrêtais de dormir la nuit parce que je claquais trop des dents. Donc, j'avais un petit hublot, là, de 70 cm sur 30. Donc, le jour, quand il y avait le soleil qui tapait un petit peu à travers ce hublot, et forcément, je me pliais en dents 4 derrière ce hublot pour me réchauffer au maximum. Et puis, j'essayais de dormir un petit peu par tranche de quelques minutes la journée. Mais effectivement, je me suis retrouvé en situation, notamment sur les 2 dernières journées, en me disant, Yvan, là, si tu t'endors, tu ne vas pas te réveiller, quoi. Tellement tu as froid, tellement tu es congelé, tellement tu es en position d'hypothermie. Je n'ai pas eu cette notion de peur. Cette notion de peur, je me suis rendu compte qu'elle est arrivée plus tard. Puis je me dis, c'est toi qui t'es retrouvé tout seul dans cette situation-là, donc débrouille-toi pour t'en sortir, quoi.
Est-ce qu'à ce moment-là, en 2002, Yvan, tu découvres en toi des ressources insoupçonnées justement pour résister, pour lutter?
C'est clair que ça a été un déclic le 2002, quand je suis dans cette coque à l'envers. Je me rends compte qu'à l'extérieur, les gens voient ça d'un œil étonnant, en disant ce gars, comment il a fait ça, comment il s'en est sorti et tout. Et puis moi, finalement, j'ai vécu presque comme si c'était une situation normale. Donc je me rends compte effectivement que j'ai des capacités. Et finalement, c'est plus tard que je me suis rendu compte, plutôt dans les années où j'ai commencé à faire vraiment de l'aventure pure, où je me suis dit, mais Yvan, en fait, tu aurais dû faire de l'aventure beaucoup plus tôt, en fait, parce que c'est vraiment ton créneau, c'est vraiment ce que tu sais faire de mieux, c'est vraiment là où tu as une plus-value incroyable. J'ai pas de regrets, hein, parce que j'ai une vie de dingue, j'ai vécu des choses de folie, et puis c'est pas fini. Mais c'est vrai que j'aurais pu mettre ce côté aventurier encore plus en avant dans mes premières années de ma carrière.
Alors, tu alternes course au large et compétition sur des petits catamarans sans habitacle, les F-18, les F-20 Nacra. Ça te rappelle tes premières amours, hein, lorsque justement tu faisais du cabotage avec les fameux Hobbycat 16. Pourquoi finalement tu te diriges à un moment vers ces petits bateaux après avoir réussi des performances incroyables avec ces géants des mers?
Eh bien, en fait, c'est quelque chose qui ne m'a jamais lâché. C'est comme le petit plat de sa mère ou de sa grand-mère qu'on a goûté jeune, dont on ne peut plus se passer. Eh bien, moi, c'est exactement ça. C'est que je fais cette pratique de hobbycat entre l'âge de 14 ans et 20 ans. Et j'y prends tellement goût, ce petit bateau qui est en fait le concept simple, quoi. C'est 2 coques, un mât, une voile, et puis t'y vas, banzai. Et puis, c'est l'instinct, l'intuition, le sens marin. Et cette façon de naviguer, en fait, ne me lâche pas. Si bien que même quand j'ai la chance de naviguer au plus haut niveau sur les trimarans Brossard, Bayer, Foncia, etc., n'empêche que dès que j'ai un créneau, dès que j'ai du temps libre, ben, je veux faire un championnat d'Europe, je veux faire un championnat du monde, je veux faire un raid en cata de sport, parce que c'est ce qui me fait triper. C'est vrai qu'on avait beaucoup de pression sur ces gros trimarans, il y avait des enjeux importants, il y avait des courses à gagner, on n'avait pas droit à l'erreur. Et finalement, ce petit catamaran de sport, c'est le côté fun qui ressort tout le temps, ce côté où tu peux attaquer, où tu peux te chavirer, c'est pas très grave, tu te redresses, tu repars. Et finalement, ça ne m'a jamais lâché jusqu'à ce que je décide effectivement d'aller au-delà des compétitions, d'aller au-delà du simple fait de rester dans la bête qui bronque pour générer des aventures beaucoup plus lointaines.
Nous sommes le 5 octobre 2013 au Sable d'Olonne et là tu pars pour ce tour du monde sur ce petit catamaran sans habitacle appelé tendrement ma louloute. Et là tu pars pour 220 jours de mer jusqu'au 23 juin 2015. Pourquoi cette idée de partir dans ces conditions si inconfortables pour un tour du monde ?
Eh bien, à travers ce tour du monde, je réalise en fait le plus grand rêve que je pouvais imaginer depuis l'âge de 14 ans. Pour moi, la façon la plus pure de naviguer, le rêve le plus fou qu'on peut avoir en tant que marin, c'est de se dire « je fais le tour du monde » parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus fort « et je fais le tour du monde sur une embarcation où je ne vais pas être assisté par l'électronique, je ne vais pas être assisté par le GPS, je ne vais pas avoir l'assistance météo, je ne vais pas avoir le confort absolu de me reposer dans une cabine, être au plus près des éléments, être à l'extérieur, de dormir à la belle étoile sous les paquets d'eau de mer » de sentir ce bateau, de dormir en se disant bah, chaque vibration du bateau va me donner des indicateurs sur le réglage des voiles, sur la façon si je dois me réveiller ou pas. Et j'ai déroulé dans ce tour du monde qui a duré 220 jours de mer, vraiment tout ce que je pouvais rêver de mieux. Et c'est vrai que ça a été pour moi un accomplissement en mêlant vraiment l'aventure, le voyage et en exploitant tous mes sens et toute l'expérience en fait que j'avais emmagasinée, parce que finalement ces 20 années de compétition que je fais avant, c'est autant d'expériences qui m'ont servi à ce moment-là, parce que plus tu es démuni en fait d'électronique, d'assistance, l'expérience, l'intuition et tout ça devient prépondérante, quoi.
Alors tu traverses l'Atlantique, tu passes le canal de Panama, tu traverses le Pacifique, tu passes notamment du côté de la Polynésie, tu remontes vers l'Australie, puis ensuite tu remontes l'océan Indien, les côtes africaines, tu passes le canal de Suez et tu reviens par la Méditerranée pour arriver en Normandie. C'est un périple exceptionnel. Au départ, tu pars pas seul, tu pars avec un équipier, Vincent Beauvarlet, qui abandonne assez rapidement. T'as hésité à continuer seul à ce moment-là lorsque il te dit « moi j'arrête, vous êtes au début de cette aventure puisque vous êtes aux Canaries ».
Ça a été déjà très compliqué avant le départ de monter ce projet parce qu'un tour du monde en cata de sport avec sans cabine, sans protection, sans GPS, tout ça, ça paraissait démoniaque et même les experts, les navigateurs professionnels disaient « ils vont pas finir, c'est pas réalisable ». Et donc forcément, moi, c'était juste pas imaginable de partir tout seul à ce moment-là. Je me disais « voilà, on n'a pas d'électronique, on n'a rien, il faut bien à un moment donné changer la barre ». Donc c'est pour ça que je construis ce projet à deux. Et effectivement, Vincent est malade très rapidement, et dès les Canaries, souffre du mal de mer et surtout du stress, parce que c'est quand même hyper stressant de naviguer sur un petit cata de 6 mètres à ras d'eau comme ça dans les vagues de 4-5 mètres. Et finalement, arrête l'aventure. Et moi, effectivement, j'ai quelques jours pour me décider, parce que la météo n'attend pas, pour dire est-ce que je continue tout seul ou pas. En plus, à ce moment-là, je perds mon sponsor qui ne veut pas cautionner le fait que je sois seul, considérant qu'il y a trop de risques. Donc, c'est vrai que je me retrouve dans une situation compliquée où je dois apprendre à naviguer seul, essayer d'adapter le bateau rapidement pour cette navigation solitaire, et puis être fauché, parce que du coup, j'avais plus de sponsor et je savais que j'allais revenir du coup avec des dettes.
Je voudrais te poser quelques questions très concrètes pour qu'on imagine. Comment tu vis à bord quand il n'y a pas d'habitacle ? Où tu dors ? Comment tu dors ? Comment tu gères les intempéries ? Comment tu manges ?
Ce bateau que j'avais appelé ma louloute, je l'avais un peu conçu à mon image. Et donc j'avais deux coques, effectivement, un trampoline, mais j'avais quand même des ailes sur les côtés. C'est 2 mètres sur 1 mètre, donc c'est juste de quoi s'allonger. Et voilà, il n'y a pas de protection par-dessus. C'est mon studio, en fait, 2 mètres carrés. Tu t'aménages ton petit espace de vie, toutes tes provisions sont à l'intérieur des coques. Et puis, ben, tu sors des coques de temps en temps, un sachet de nourriture, un lyophilisé pour te faire à manger. Tu sors ton sac de couchage quand tu peux, parce que parfois les conditions sont trop musclées pour pouvoir dormir. Et puis, ben, tu apprends en fait à naviguer seul sur ce petit bateau. Et donc, il faut savoir s'adapter finalement complètement à la météo, à la nature. Et puis, ben, parfois, ben, au contraire, il y a 3 jours sans vent, ben là, tu vas beaucoup dormir, beaucoup récupérer. Et puis parfois, il y a 3 jours de tempête, c'est impossible de mettre le bateau sous pilote, donc tu ne dors pas pendant 72 heures. Je me suis retrouvé plusieurs fois comme ça en ce tour du monde à ne pas dormir pendant des épisodes très très longs. Donc c'est vrai qu'on sait, nous marins, que la lutte contre le sommeil, c'est quelque chose de très très difficile. Mais en même temps, j'ai vécu une fusion avec la nature qui était parfaite. Qu'est-ce qui est plus incroyable aussi que de larguer les amarres de Panama, par exemple, des Galapagos, et de se repérer qu'avec les étoiles, et de se dire, ben voilà, si je rate ces petites îles qui sont 10 000 km plus loin, qui sont les Marquises, ben après, finalement, je vais peut-être me retrouver à naviguer encore 2 mois de plus pour aller en Australie. Donc, tu sais que tu n'as pas trop le droit à l'erreur, et faire le point en sextant sur un petit bateau comme ça, ce n'est pas si simple. Apprendre les étoiles, parce qu'il faut faire le point aussi avec les étoiles. Et donc, je me réjouissais comme un gamin tous les soirs à ouvrir les yeux vers le ciel, à redécouvrir ce ciel. Parce qu'à chaque fois qu'on bouge d'un hémisphère nord à l'hémisphère sud, le ciel, il bouge. Il bouge du matin au soir aussi, en fonction de l'heure. Et voilà, j'étais comme un gamin en effervescence qui apprend à naviguer à l'ancienne. Et c'est incroyable, cette sensation de se dire, voilà, je fais le tour du monde. J'ai besoin de personne, j'ai pas besoin de la technologie, tout simplement avec mon petit bateau, mes 2 coques, mon mât, mes voiles, et j'arrive qu'à faire mon petit bout de chemin. Voilà, je profite des moments où j'ai des dauphins, des requins, des tortues, et tout ça, c'est juste fabuleux, quoi. Je regrette pas la compétition, je regrette pas la technologie, mais c'était un instant de vie fabuleux.
C'est génial de t'écouter parce qu'on est avec toi sur l'océan. On s'imagine ce que tu as pu vivre. Alors, tu es parfois quelqu'un d'un peu bourru. T'aimes bien être seul. T'aimes bien être seul décisionnaire de ce que tu peux faire de ton existence. Et là, sur ce tour du monde, ben, il n'y a pas plus belle liberté.
Ouais, un sentiment de vivre une liberté, une méditation d'un autre monde. Moi, j'ai jamais été fait de la méditation avant. Et là, je me suis rendu compte qu'elle venait à moi, que j'avais des pensées ultra positives. Et finalement, toutes les bonnes décisions que j'ai prises dans ma vie, ensuite, ben, je les ai prises à ce moment-là dans le tour du monde.
On te voit d'ailleurs très bien dans le film qui raconte ce tour du monde. Tu passes par toutes les émotions. On te voit rire, on te voit en plein bonheur, mais on te voit hurler, on te voit pleurer. On assiste même à une crise de nerfs à un moment. C'était important de pouvoir tout partager, montrer quel était ton quotidien dans les bons comme dans les mauvais moments.
C'était assez nouveau pour moi d'avoir ces caméras à bord. Mais t'es libre de les allumer ou pas. C'est ça qui est bien, c'est que moi, j'aime pas avoir cette surveillance permanente et tout. Et il y a des fois, tu as besoin d'être seul, tu as besoin même de couper ses caméras, et même s'il y a un truc exceptionnel filmé, bah, tu la coupes, ce n'est pas le moment. Et puis parfois, bah, voilà, tu as envie de partager, tu as envie de pousser ton coup de gueule, tu as envie de crier, d'hurler. J'ai effectivement fait le choix d'accepter mes vulnérabilités, d'accepter les moments difficiles, de les faire partager, parce que ça fait partie de la vie d'un marin. C'est vrai qu'avant, l'école ancienne, c'était plutôt d'aller à la tabarlée, de montrer qu'on était impur et dur et que rien ne nous atteignait. Et au contraire, moi, voilà, c'est vrai que dans ce tour du monde, bah forcément, quand tu pars sur une embarcation pareille, tu vis des moments aussi difficiles et aussi de joie extrême. C'est bien d'avoir pu partager ça aussi avec des terriens. Et puis, bah, le terrien, voilà, il se dit aussi que finalement, le marin, l'aventurier, c'est aussi un homme à part entière. C'est quelqu'un qui a des sentiments, qui a des faiblesses aussi et qui est comme tout le monde finalement, quoi.
Yvan Bourgnon est mon invité aujourd'hui dans Vie d'aventure. Marin, aventurier, il nous raconte ses épopées et notamment ce tour du monde sur un petit catamaran. Alors, ces petits catamarans, tu le disais toi-même, Yvan, ils sont agréables à piloter, mais ils chavirent quand même assez facilement. Il faut être extrêmement précis et précautionneux. Raconte-nous aussi ce moment où, seul, au milieu de l'océan, tu tombes à l'eau.
Effectivement, quand tu pars sur un petit bateau à ras d'eau comme ça, avec juste un trampoline qui est 30 cm au-dessus de l'eau, bah, tu t'attaches, mais voilà, malheureusement, tu peux pas t'attacher 100% du temps. Donc, c'est hyper dangereux de tomber à la mer. Et voilà, à plusieurs reprises, je suis tombé à l'eau, et notamment voilà, au milieu de l'Atlantique. Et à ce moment-là, effectivement, je suis attaché, heureusement, et le bateau file à toute vitesse sous pilote automatique. Et heureusement, à ce moment-là, j'ai les ressources physiques pour pouvoir retirer sur ma ligne de vie et puis remonter à bord. C'est vrai que c'est chaud parce que si tu quittes le bord, entre guillemets, tu te retrouves tout seul au milieu de l'Atlantique dans l'eau et ça peut être vite le drame. Donc, il fallait être vigilant là-dessus. Et puis, je pense à une autre fois aussi au Sri Lanka où là, j'ai pas dormi quasiment depuis 4 jours. Je suis dans un état grave. Et à un moment donné, en fait, j'avais pas mangé. Ma nourriture était bloquée dans la coque et il y avait trop de vent pour pouvoir ouvrir ce capot. Et à un moment donné, je pars en délire complet, en hallucination. Et je décide d'aller acheter du pain à la boulangerie. Et donc, c'est seulement, en fait, quand je me retrouve dans l'eau, que je me dis, bah là, t'es sur un bateau, t'es pas lâché de fond sur la boulangerie. Et donc, heureusement que je suis attaché aussi à ce moment-là et que je me réveille et que je remonte sur le bateau. Ça peut être vite, vite dangereux, effectivement, de se retrouver à la baie.
Restons au Sri Lanka, parce que c'est un moment très compliqué de ton tour du monde. Tu l'évoquais à l'instant, une fatigue extrême. Et à un moment, tu t'endors quelques minutes de sommeil qui sont fatales puisque tu t'échoues avec ton bateau et tu le détruis au large du Sri Lanka.
Ça a été un des pires moments de ma vie maritime. J'avais réalisé 4/5 du tour du monde. J'étais en harmonie parfaite avec mon bateau. J'étais monté en puissance. Tout me souriait, tout me réussissait avec ce bateau, ma louloute. Et puis là, bah, effectivement, en un quart de seconde, ta vie bascule. En un quart de seconde, tu te prends un stress incroyable avec ces vagues qui te heurtent ton bateau sur les cailloux. Donc déjà, tu risques vraiment de mourir à ce moment-là. C'est des rochers, c'est des grosses vagues. Et puis à un moment donné, bah, voilà, tu te retrouves sur le caillou. Bon, t'as sauvé ta vie. Mais là, tu assistes au désastre, ton bateau qui se brise en 1000 morceaux devant tes yeux. Ce bateau que tu as imaginé, que tu as construit de tes propres mains, qui t'a sauvé la vie à de nombreuses reprises, forcément, c'est un déchirement, voilà, c'est une partie de moi-même qui part à ce moment-là, c'est la fin de l'aventure. Et voilà, et j'imaginais pas pourtant qu'un jour je repartirais avec ce bateau réparé du Sri Lanka. J'ai vécu des choses plus dures encore sur le plan humain, mais sur l'eau, ça a été un moment difficile.
Je voudrais citer ton frère, Laurent Bourgnon, qui, quand il évoque ton tour du monde, dit « Si je devais choisir entre 10 ans de prison et ce tour du monde, j'hésiterais ». C'est te dire à quel point le champion qu'il était trouvait quand même ton projet un peu fou.
Malheureusement, ce n'était pas le seul. Effectivement, personne ne se voit embarquer sur ce genre d'aventure. Et d'ailleurs, elle a été réalisée entre 2013 et 2015. Et pour l'instant, personne n'a lancé l'idée de faire une aventure de ce type. Tout était réuni à ce moment-là. Et en plus, au bon moment de ma vie, à 40 ans, c'est là que j'étais au top de ma forme physique. C'était là que j'avais la plus belle expérience. Les katas de sport, c'est ce que je préférais. Le voyage, c'est ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. C'était la quintessence de ma vie. Mais c'est vrai qu'il y avait 15 ou 20 raisons d'abandonner à ce moment-là. Le nombre de fois où je me suis réveillé près d'un récif, le nombre de tempêtes où j'ai failli chavirer, le nombre de casques qui auraient pu se terminer en drame. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis, mais comment ça se fait? J'ai une réussite insolente, tout me réussit, tout m'accompagne. Et ce qui n'a pas forcément été le cas dans la compétition, au contraire, j'avais l'impression d'une rigueur, d'un travail acharné, et puis qu'il y avait toujours un petit grain de sable qui fait que, hop, la compétition s'arrêtait, la transat s'arrêtait, pour une petite bêtise à la con. Et alors que là, bah, il y avait ce sentiment de puissance qui faisait que tu te disais, bon, il y aura un problème, c'est sûr, il y en aura plein d'autres, mais il y aura toujours une solution. J'avais cette sérénité à ce moment-là, voilà, comme un sportif qui peut gagner les JO et qui... à une phase dans sa vie voilà, transcendante, et c'était ce moment-là pour moi. Quoi, voilà.
55 000 kilomètres parcourus. Dernière chose que je voudrais qu'on évoque sur ce tour du monde, Yvan Bourgnon, c'est cette remontée de l'océan Indien, le long des côtes africaines, quand finalement tu demandes qu'on ne donne absolument jamais ta position parce que tu as peur des pirates qui sévissent dans cette zone du monde.
Ben, il faut savoir que les actes de piraterie qui ont tué quand même des centaines de personnes à cet endroit-là du monde, en Somalie, ça se passe vraiment entre 2010, 2012, 2013. Et moi, j'arrive là-bas en 2014 et il y a encore beaucoup de pirates sur l'eau. Donc, c'est tendu. Hein. Moi, je sais que quand j'arrive à cet endroit-là, mon bateau n'a pas grande valeur. Mais là, par contre, la prise d'otage est quelque chose qui peut rapporter gros, parfois quelques centaines de milliers d'euros. Et donc, voilà, et si tu collabores pas ou si tu tombes sur des mauvais pirates, ben voilà, ils n'hésitent pas à sortir le flingue. Donc, forcément, c'est chaud et je coupe la position de mon émetteur GPS et je traverse cette zone pendant une semaine quand même, hein, c'est pas juste quelques heures. Et là, tout d'un coup, je vois approcher deux embarcations. Il y en a une qui vient au coucher du soleil, comme ça, tout près de moi. Et là, je me dis, bah, c'est pas possible, quoi. C'est soit la garde civile, soit les pirates, c'est forcément l'un ou l'autre. Et en fait, j'ai le réflexe de me cacher. Alors, se cacher sur un bateau qui n'a pas de cabine, c'est compliqué. Mais je m'habille en blanc et je me mets allongé sur mon banc extérieur pour essayer d'être le plus transparent possible. Ils arrivent, ils commencent à tourner autour de moi. Et là, je distingue clairement qu'ils sont armés jusqu'aux dents, qu'ils ont les treillis déchirés, qu'il y a une dizaine de pirates sur cette embarcation. Donc forcément, je suis dans un état incroyable à ce moment-là. Et en fait, je les entends à un moment donné hurler, crier. Ils s'engueulent entre eux. Surréaliste la scène. Et puis finalement, bah, quelques secondes après, hop, ils décident de partir et ils s'en vont. Et en fait, quand j'arrive après à Djibouti, le commandant chef de l'armée m'explique là-bas que les pirates... n'attaque que de jour pour des problèmes de religion apparemment. Et en fait, ils devaient probablement s'engueuler à bord pour des questions de jour ou de nuit parce que c'était parfaitement le coucher du soleil à ce moment-là et que certains devaient dire on y va, d'autres non. Peut-être que ce jour-là, la nuit finalement m'a sauvé, quoi.
Alors, 3 jours après ton arrivée à Ouistreham, ta vie bascule parce que au moment où tu es en train de célébrer ce tour du monde, de le partager avec le plus grand nombre, tu apprends la disparition de ton frère à l'autre bout de la planète, en Polynésie, où il n'est jamais remonté d'une plongée. Là, toutes affaires cessantes, tu pars à Tahiti, tu montes sur un bateau pour aller tenter de retrouver ton frère Laurent. Ça a dû être un moment complètement dingue, où tu as le bonheur de l'arrivée et la détresse de perdre ton frère en quelques heures.
En fait, je passe littéralement du plus beau jour de ma vie, parce que je réussis, je retrouve mes enfants. Donc, c'est clairement le plus beau jour de ma vie à ce moment-là. Et le lendemain, c'est le pire jour de ma vie. Donc, je passe par des émotions complètement folles. Et effectivement, il n'y a pas le choix, quoi. Laurent, c'est un guerrier, c'est un dur. Il est capable de passer des jours en mer tout seul dans l'eau. Et je me dis, bah voilà, les secours vont durer 2-3 jours. Derrière, il n'y aura plus personne qui le cherche. Donc, il faut vite prendre le premier avion, aller à Tahiti avec ses meilleurs amis, prendre son bateau, le Jumbo, embarquer le maximum de personnes à bord et chercher jour et nuit, 24 heures sur 24, Laurent, avec cette chance qu'on avait peut-être de le retrouver, parce que dans un accident plongé, bah, soit tu restes au fond, soit tu remontes en surface. Et s'il était remonté en surface en simplement dérivant, bah, il y avait cette vraie chance de survie. Et c'est vrai que ces 5-6 jours qu'on passe en mer, là, sur le Jumbo, on est passé par toutes les émotions, parce que j'avais à bord des gens qui aimait profondément Laurent, qui était ses meilleurs amis. On cherchait 24 heures sur 24. Et c'est vrai que le 6e jour, quand on décide de chercher plutôt un corps que Laurent, effectivement, le déchirement a été absolument terrible, quoi. J'ai perdu mon frère, mon unique frère, celui avec qui j'ai tout partagé, tout vécu, celui avec qui m'a tout appris. C'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur. Ça a été la pire période de ma vie. Derrière, j'ai sombré quelques mois derrière. C'est violent, c'est sec. Voilà, la seule chose qui est rassurante dans tout ça, c'est qu'il est parti dans son élément, dans sa passion, la plongée. Et voilà, c'est ça qui nous a rassuré un petit peu. Mais voilà, pour mes parents, ça a été forcément la perte d'un enfant, quelque chose d'incroyable, quoi, incroyablement dur.
Est-ce que dans tout ce que tu as fait après, et on va évoquer notamment le passage du Nord-Ouest hein, pour rejoindre l'océan Atlantique depuis le Pacifique par le Nord, par l'océan Arctique, tu es aussi dans la continuité de ce qu'a pu faire Laurent. Est-ce que il t'accompagne en permanence, quel que soit ce que tu fais quand tu es sur la mer?
Ah, quand je suis dans le Grand Nord, sur le passage du Nord-Ouest, je pense que j'ai jamais eu Laurent autant à mes côtés. C'est complètement dingue parce que, autant avant, j'étais certainement en quête d'identité. Et quand on est comme ça, cadet d'un grand frère aussi fort, aussi reconnu, aussi dingue, bah forcément, nous, cadets, on est peut-être un peu plus en recherche d'identité. Donc, j'étais plus dans mon coin. Alors que là, tout d'un coup, Laurent, il était avec moi, il était sur le bateau. Et c'est dingue, dès qu'il y avait une décision importante à prendre, je me posais toujours cette question, voilà, Yvan, toi, tu vas faire quoi? Et Laurent, il ferait quoi, quoi? Il ferait quoi à ce moment-là? Il ferait demi-tour? Qu'est-ce qu'il ferait? Et je savais quelle décision il prendrait. Et je l'ai suivi, quoi. Et je sais que ça m'a énormément aidé à terminer cette aventure, c'est évident.
C'est une aventure incroyable, 7500 km entre l'Alaska et le Groenland, que tu as réalisé entre le 13 juillet et le 22 septembre 2017. Ce fameux passage du Nord-Ouest qui est quasiment toute l'année pris dans les glaces et qui se libère un petit peu lors de l'été, avec notamment ce réchauffement climatique. Ça a dû être compliqué parce que on imagine déjà les difficultés sur un catamaran aussi petit quand les conditions météo sont clémentes, mais là, avec une eau qui flirte avec les 0 degrés, avec des tempêtes qui se lèvent brutalement, ça a dû être extraordinairement éprouvant physiquement.
Je suis allé chercher mon Graal, puis j'ai surtout allé chercher mes limites, et puis j'avais pas envie d'arrêter cette aventure avec ma louloute. Et voilà, ce passage Nord-Ouest, c'était l'opportunité, l'envie d'aller découvrir les pôles. C'est vrai qu'on ne fait pas à travers les compétitions. C'est peut-être le moment aussi de montrer que, avec un petit voilier, qui n'a pas de moteur, qui navigue qu'à la voile, et ben aujourd'hui, à cause de ce réchauffement climatique, on peut passer à la voile à travers cet océan Arctique et qui a une urgence absolue à réagir. Donc c'était vraiment cette alliance entre mon Everest, cette découverte d'un monde inconnu, et puis la soif de vivre un moment privilégié par rapport au réchauffement climatique.
Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui, en t'écoutant, doivent se dire « il est complètement maso », plus c'est dur, plus il prend de plaisir, plus on se rapproche de l'impossible et plus il a envie d'y aller.
Ah ben moi j'adore, hein. Moi je me suis toujours considéré comme un être à part, je me suis toujours considéré marginal. Donc au contraire, moi plus on me traite de fou, plus on me traite de malade, de psychopathe, je me conforte là-dedans. J'ai toujours détesté rentrer dans le moule. Je suis un révolutionnaire dans l'âme. Je n'encouragerais tout le temps les gens à sortir de leur zone de confort. Alors évidemment, pas en faisant des aventures extrêmes comme moi, mais on apprend tellement sur soi, on découvre tellement de choses incroyables de la vie en sortant de sa zone de confort que voilà, c'est une incitation que je pousse de manière permanente. Et là, effectivement, dans ce Grand Nord, bon, je suis peut-être allé un peu trop loin parce que j'ai vraiment failli mourir à 4 ou 5 reprises. Peut-être que j'avais besoin de trouver cette limite absolue, là où je frôle la mort. Et voilà, en tant qu'aventurier, j'avais besoin de ça.
Je le disais en introduction, Yvan, tu peux être un véritable ermite dans tes aventures solitaires, mais t'es aussi un épicurien, t'aimes la bonne bouffe, t'aimes partager avec tes amis, t'es un vrai terrien parfois. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est la transmission. Ton père vous a transmis à Laurent et à toi cette passion de la voile. Et j'ai l'impression que tu fais pareil avec ta descendance. Tu le disais, tu as 5 garçons, 5 enfants, et tu as pris part à des compétitions, notamment avec ton fils Mathis. C'est important de pérenniser cette tradition de la voile dans la famille Bourgnon.
Et à un moment donné, bah, tu as ton aîné qui est là, qui a 20 ans, et qui dit « moi je veux naviguer, je veux faire de la compétition, j'adore ça ». Donc voilà, et c'est vrai que je me suis dit, il y a 3-4 ans, quand mon fils s'est pris de ça, je me suis dit « bah, c'est le moment de vivre un truc unique avec lui, quoi. » Donc, partage ces moments-là. Moi, j'ai peut-être même mis, en parenthèse, ma carrière sportive personnelle pour me dire, bah, c'est une tranche de vie qui est là, il faut la saisir. T'as un gamin qui est à fond là-dedans, il a envie d'apprendre, il a soif de partager ça. Et ce que j'avais vécu un peu avec mon frère, bah, finalement, j'ai retrouvé là avec mon fils. Et c'est vrai que c'est aussi une jouissance incroyable que de lui apprendre la transmission du bricolage, de se retrouver vite sur les compétitions et de vite réussir, parce qu'on est devenu champion d'Europe en 2019, je crois. Ça ne va pas durer, parce que le gamin, très vite, il va dire à son père « Bon, papa, tu ne bouges pas assez sur le bateau, tu ne tires pas assez bien sur les ficelles. » Et puis, il va s'envoler de ses propres ailes, et tant mieux, quoi. Moi, je me suis régalé, et je me régalerai encore, certainement un petit peu encore, de ces moments privilégiés avec mon fils, et puis j'en vivrai d'autres avec mes autres enfants à un autre niveau.
Yvan Bourgnon est mon invité dans Vie d'aventure, marin, aventurier, mais pas que. Il y a aussi cette conscience écologique qui t'habite, et j'en veux pour preuve ce projet que tu es en train de mettre en place, intitulé The Sea Cleaners, les nettoyeurs des mers, avec la construction très bientôt d'un bateau révolutionnaire appelé le Manta, qui aura pour mission de récupérer un maximum de plastique dans les océans. Raconte-nous comment ce projet est né et surtout quand ce bateau va voir le jour.
J'étais pas forcément militant écologiste depuis très longtemps, en fait. Mais c'est les événements qui ont provoqué ça. C'est-à-dire que je me retrouve dans ce tour du monde en catin de sport, le long de l'Indonésie, au Sri Lanka, en Maldives, à naviguer dans les plastiques. Et moi, qui avais eu cette chance de naviguer dans les mêmes eaux avec mes parents 33 ans avant, j'ai pu constater la différence. Je me suis dit, waouh, mais c'est nous, notre génération, là, pendant 30 ans, qui avons juste foutu ce massacre dans ces eaux-là. Et là, ça m'a complètement choqué. J'ai pris conscience de ça. Et je me suis dit, bon, bah, oui, c'est bien d'aller vite d'un point à l'autre, de faire des compétitions à outrance, mais à un moment donné, ça sert à quoi? Et là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'utile, d'important pour la planète à faire? Et c'est comme ça qu'en 2015, bah, j'ai l'idée de créer cette association The Sea Cleaner et de trouver des solutions pour lutter contre la pollution plastique dans les océans. Donc, c'est vrai que cette expérience de la construction navale, cette expérience de la mer, bah, je me dis, je pouvais peut-être la mettre au service de l'écologie et des océans qui sont les parents pauvres.
Alors, quand ce bateau va voir le jour pour aller lutter contre ce fléau, hein, on le rappelle, 8 millions de tonnes de plastique déversées dans les océans chaque année, et tout ça dans une zone du monde très bien connue, le sud-est asiatique, responsable de 60% de cette pollution.
Eh bien, le projet Manta, hein, parce que c'est comme ça qu'il va s'appeler, et le premier du nom en tout cas, va être mis à l'eau en 2024. Et c'est un géant des mers de 55 mètres de long qui va être capable de collecter entre 5 et 10 000 tonnes de plastique par an. Il en faudra quelques dizaines ou quelques centaines pour être très actif. Mais c'est des bateaux voilà, qui, bien placés à l'embouchure des grands fleuves qui polluent énormément, notamment en Asie du Sud-Est, vont être très efficaces. Et puis au-delà de la collecte, ce qui est important dans des bateaux comme ça, c'est le message. C'est-à-dire que quand tu t'arrêtes dans un port, bah, tu montres à la population, aux décideurs, aux politiques, que bah, tu te retrousses les manches pour faire la bonne action. Et les gens, ils ont besoin de ça, ils en ont marre du blabla, ils ont besoin de concret, ils ont besoin de sentir que ça bouge, ils ont besoin de sentir qu'on fait quelque chose aussi en curatif. Et oui, certes, il faut agir en amont, il faut éduquer les populations, il faut changer les habitudes de consommation. Mais voilà, mais on ne peut pas se permettre aussi de rester les bras croisés, de dire, bah, voilà, en 2060, il y aura 3 fois plus de déchets plastique dans les océans, et on ne fait rien. Donc nous, on a fait le parti pris d'agir en amont et de prendre les devants, et en espérant que bah, les institutionnels, les politiques comprennent ça assez vite.
Yvan, comment il sera propulsé ce bateau, et qu'allez-vous faire du plastique récupéré?
Ce qui est incroyable à travers ce Manta, c'est qu'on a réussi un double défi. Le premier, c'est de le rendre autonome à peu près à 75%, en utilisant toutes les énergies renouvelables, les hydrogènes, les panneaux solaires, le vent, les éoliennes, etc. Donc on utilise tout ce qui se fait de mieux pour pouvoir vraiment réduire au maximum notre consommation de carburant. Et puis à côté, on a surtout trouvé la solution pour avoir une vraie usine embarquée. Et finalement, quasiment 100% des déchets qu'on va remonter à bord vont être traités directement sur place avec une pyrolyse. Globalement, c'est la solution pour transformer le plastique en énergie électrique. Et cette énergie électrique, bah, comme on a des moteurs électriques à bord, comme tout est un bateau comme ça, qui est aussi grand avec 36 membres d'équipage, a besoin de beaucoup d'électricité, et bah, on transforme tout de suite ça en énergie, et on n'a pas besoin de revenir à terre pour déverser nos plastiques, et on est relativement autonome. Donc c'est tout l'intérêt du Manta, c'est de pouvoir être opérationnel 250 jours par an, dans des zones parfois reculées de la planète, dans des embouchures inaccessibles, et de continuer à collecter.
Yvan, il en faut combien des bateaux comme ce futur Manta pour lutter efficacement contre cette pollution plastique dans les océans?
400 bateaux permettraient de collecter environ un tiers de la pollution mondiale. Donc ce n'est pas insurmontable. Après, le Manta, ce n'est pas l'unique solution. Il y a aussi les petits bateaux. Quand on est dans les rivières, dans les fleuves, en côtier, il faut des robots, des petits bateaux. Donc on est aussi en train de travailler sur ces solutions annexes. Mais c'est vrai que cette consommation du plastique qui est exponentielle, on a consommé plus de plastique au 21e siècle qu'au 20e siècle, alors qu'on n'est qu'en 2021. Donc ça fait peur parce qu'on sait que les nouvelles populations vont s'installer le long des côtes, qu'en Afrique ça va exploser la démographie, et donc forcément bah, ces océans ne sont pas prêts d'être libérés de ces plastiques.
Yvan, je suis persuadé que dans un petit coin de ta tête, après ce tour du monde, après le passage du Nord-Ouest, tu as une autre idée un peu folle pour poursuivre ta quête d'aventure unique. Qu'est-ce que tu as envie de réaliser aujourd'hui?
C'est un petit peu mon problème d'aujourd'hui, c'est que j'aimerais moi avoir 3 vies, en fait, ou voir 4. Hein, une vie où je Je suis écologiste, une vie où je suis aventurier, une vie où je suis compétiteur, puis une autre où je suis père de famille. Et le problème, c'est que chaque vie me prend aujourd'hui plutôt 40 heures ou 50 heures par semaine. Et c'est toute la difficulté, c'est que j'ai cette énergie incroyable et cette force pour pouvoir faire plein de choses. Et c'est vrai que j'ai très envie de reprendre plus le large. Et j'ai deux projets dans les cartons. Donc le premier, c'est de faire le tour du monde contre les vents en multicoque, ce qui n'a jamais été réalisé. Il y a vraiment une opportunité avec un maxi trimaran de faire ce premier tour du monde en moins de 100 jours. Donc c'est vraiment contre les vagues, contre les vents, à l'inverse du Vendée Globe qui fait le tour du monde dans le bon sens en ce moment. Et puis le projet du Vendée Globe, surtout ce Vendée Globe, m'a donné beaucoup d'envie. J'ai vu énormément de progrès dans les bateaux qui vont très vite. Donc oui, je vais monter un dossier pour essayer d'être présent au prochain Vendée Globe en 2024. Et puis on verra si un des deux projets aboutit, ça sera formidable.
Yvan, je crois pouvoir dire que tu ne seras jamais raisonnable, même en vieillissant. En tout cas, merci infiniment d'être venu dans Vie d'aventure nous faire partager ces émotions exceptionnelles vécues sur la compétition, dans tes aventures, à la voile, sur tous les océans du globe. C'était un vrai plaisir. Merci à toi, Yvan.
Merci, Denis, c'était génial. Merci et bon vent.
Merci infiniment de votre fidélité. Quel bonheur de partager cette aventure podcast avec vous. Alors, si vous avez des remarques, des suggestions, des propositions, n'hésitez surtout pas à me contacter sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram ou encore Facebook. Si l'épisode vous a plu, profitez-en pour vous abonner, partager, laisser 5 étoiles ou un commentaire sur votre application de podcast préférée. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité dans Vie d'aventure. Je compte sur vous. Très belle journée.